accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'accès libre. Les gouvernements font des pieds et des mains pour nous démontrer qu'ils ont un impact sur le chômage, même nous montrer qu'ils font travailler le monde. Eh bien, il faut faire les tests de leur stratégie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on reçoit en table ronde Walter Zelaya de Mémo Québec, qui représente aujourd'hui le ROSEF, Laurence Pérousseau, toujours à la défense des étudiants en situation de handicap, et Renaud-Michel Haché, qui est derrière une plateforme incroyable là, qui aide à promouvoir le talent des personnes en situation de handicap, et tout ça depuis le Nouveau-Brunswick. Ça travaille fort aussi du côté de tous les acteurs en campagne électorale municipale, puisqu'il s'agit de la toute dernière semaine, 5 novembre. Donc, on est dans le mouvement. L'ex-président de la Chambre des notaires du Québec, Jean Lambert, nous explique ce qu'est le pouvoir des villes. À Montréal, la porte-parole, ou plutôt le porte-parole d'Élections Montréal, Pierre G. Laporte, nous détaille les moyens de voter, là, peu importe qu'on soit en situation de handicap ou pas. Franck Bouchard nous présente les engagements des partis en matière d'habitation. Et dans quelques instants, Manon Blackburn, qui est directrice de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous en apprend un peu plus sur l'accessibilité universelle et on espère que les candidats-candidates de ces différentes villes vont l'écouter. Tout ça sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Les loisirs, qu'on se le dise, c'est souvent géré par les villes, les villages. Mais plus que ça, quand on doit s'assurer que la mise en accessibilité des loisirs, des sports ou même de la culture, on doit penser à l'accessibilité des installations surtout. Et en somme, dans le même mouvement, là, quand on fait ça, on s'assure que la ville offre des bâtiments, des communications, des services accessibles. Donc, vous comprenez pourquoi parler loisirs, c'est la bonne porte d'entrée pour la mise en accessibilité de nos villes. Et avec Manon Blackburn, directrice de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va comprendre tout ça un peu mieux. Bonjour, Madame Blackburn.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Ben, ça me fait plaisir.
Content. Donc, votre région est vaste, mais j'ose tout de même vous poser la question. Si vous aviez un bilan de l'accessibilité universelle à faire dans votre région, ça ressemblerait à quoi, Madame Blackburn?
Écoutez, quand on regarde, c'est sûr, selon la loi, là, au niveau des plans d'action favorisant l'intégration des personnes handicapées, nous avons, dans le fond, deux villes qui sont sujets à ces plans d'action-là, donc la ville d'Alma et ville de Saguenay.
Oui.
Parce que, bon, notre région quand même comporte beaucoup quand même de milieux urbains.
Oui.
Donc, nous, on a travaillé beaucoup avec, on a participé beaucoup à ces plans d'action-là, mm-hmm. parce que, bon, on est quand même des représentants et on n'est pas toute seule dans le fond, là. Ça fait que, comme je vous dirais, on a participé à la rédaction du plan d'action à Ville de Saguenay pour 2016-2018. Donc, c'est quand même 17 membres qui ont participé.
Ah oui, c'est du bon de la table, ça.
Oui, oui, oui. Puis, on a aussi, avec toujours Ville de Saguenay, bien, il y a toujours le comité des représentants municipaux. Donc, chacun des services est présent aussi à une table.
Mm-hmm.
Et aussi, on a le comité consultatif du plan d'action, dans le fond, qui est composé de 20 membres. Donc, de 20, il y a des associations, le centre de réadapt, tout ça. Mm-hmm. Et on a des citoyens aussi de Ville de Saguenay qui sont sur ce comité consultatif-là.
Mm-hmm.
Donc, le but, nous, dans le fond, c'est d'essayer le plus possible d'amener des projets sur la table, parce mm-hmm. qu'on va se dire, en parenthèse, qu'on travaille avec les personnes handicapées.
Ouais.
On sait aussi qu'est-ce qu'ils vivent, les personnes handicapées, au niveau de l'accessibilité.
Mm-hmm.
Souvent, l'accessibilité, on va l'avoir au niveau architectural, dans
ouais.
le fond, mais il n'y a
mais
pas
c'est pas
juste
tout.
Ça.
C'est pas tout. Non. Les personnes aveugles, entre autres, ont besoin de communication à
oui.
qui leur parle, sans jeu de mots. Vous me dites, tout le monde à table, c'est heureux, il semble qu'il y ait une bonne participation pour l'élaboration de ces plans d'action-là. Mais
oui.
c'est quoi votre bilan à vous? Est-ce que vous trouvez qu'Alma et à Saguenay, ça va bien au niveau de l'accessibilité universelle?
Bien, comme je vous disais, là, dans le fond, on travaille à chaque année à améliorer l'accessibilité aux personnes mmh. qui vivent avec un handicap sur notre territoire.
Oui.
C'est sûr que, dans le fond, on a fait beaucoup. Il reste encore des choses à faire, mais je veux dire, ça s'améliore.
Ça s'améliore.
Je trouve que c'est un bilan quand même qui est positif, mais tout n'est pas parfait non plus. Nous, ce qu'on essaie de faire, dans le fond, c'est que quand on travaille des actions, on va essayer de le travailler aussi, parce que, on travaille en accessibilité universelle, donc on dit toujours qu'est-ce qu'il va faire pour un, va faire pour l'autre aussi. Autant pour la petite maman qui est en poussette, autant de la personne, le livreur qui s'en vient avec ses grosses caisses, bien, quand il y a des portes électriques, tout le monde est heureux.
Oui, et voilà. Puis donc, ça, c'est les bénéficiaires aussi de l'accessibilité universelle. C'est pour ça que vous utilisez ce concept-là davantage maintenant. Parce qu'il faut rappeler que les plans d'action ne vous obligent pas à aller là. L'accessibilité universelle, c'est un choix parce qu'on pourrait juste faire des choses pour les personnes en situation de handicap, là.
Oui, c'est en plein ça, mais sauf que, tu sais, on va travailler beaucoup, en tout cas, à Ville de Saguenay, on essaie de travailler beaucoup au niveau de l'inclusion.
Oui.
Donc, on veut avoir, tu sais, l'an passé, ben, on est en notre deuxième phase d'un parc adapté inclusif.
Okay.
Donc, c'est un concept de parc qui est très intéressant parce qu'il favorise justement l'intégration, oui, des personnes en situation de handicap, mais aussi, ce parc-là fait aussi pour monsieur et madame tout le monde aussi, parce que chacun en retire un plaisir.
Oui.
De pouvoir s'intégrer là-dedans. Fait qu'on essaie de travailler de cette façon-là, mais comme je vous dis, il reste des pas. C'est pas parce que ça serait trop facile de dire que tout est terminé. Ce n'est pas ça. C'est un travail jour et après jour. Mmh. Et ben, c'est sûr que nos personnes qui sont en situation de handicap, ben, c'est eux aussi qui sont sur le terrain puis qui nous rapportent des choses aussi que nous, on ramène ça aussi à la ville.
Donc, vous demeurez à l'écoute de votre base. Puis, qu'est-ce que les gens vous disent, disons, dans le secteur des loisirs, de quoi ils ont besoin à Alma ou à Saguenay?
Ben, je vous dirais qu'au niveau loisirs, on va parler, c'est sûr que, bon, de l'accessibilité. On va parler, les gens veulent aller, exemple, aller à la piscine, suivre des cours, tout ça. Souvent, des fois, les vestiaires ne sont pas adaptés. Oui, maintenant, des fois, on va mettre des lèvres-personnes pour descendre dans les piscines, parce qu'on a des piscines qui sont quand même maintenant adaptées.
Mm-hmm.
Mais des fois, entre la personne qui est dans son fauteuil roulant et qu'on doit le mettre aussi dans le fauteuil qui va aller dans l'eau, ben ça nous prend une autre sorte de lift parce que, bon, si c'est un adulte, c'est plus difficile, donc il y a des transferts. Mais ça, on essaie aussi, la ville essaie beaucoup aussi d'avoir une politique aussi pour les personnes handicapées afin de diminuer les coûts aussi. Souvent, l'accompagnateur va être gratuit. Donc, on travaille beaucoup sur des concepts comme ça. Puis, on travaille aussi, il y a la vignette d'accompagnement touristique et de loisirs que maintenant, les villes s'approprient aussi de plus en plus pour rendre les services gratuits à l'accompagnateur de la personne handicapée.
Donc, dans le fond, le premier travail, c'est d'amener les gens vers les installations de loisirs parce que sans tarif, quand les gens y vont, là, vous justifiez au fond de développer des adaptations une meilleure accessibilité.
C'est ça. T'sais, puis nous, on travaille justement, comme on a des belles bibliothèques, on a des nouvelles bibliothèques, donc des lampes de lecture, des trucs, là, ainsi, tout ça. Donc, ça vient favoriser un petit peu, là, dans le fond, l'accessibilité aux bibliothèques. Puis ce qu'on fait aussi, ce qu'on a fait avec nous, à l'association, en collaboration aussi avec le groupement des organismes de personnes handicapées, nous avons développé une formation à l'accueil des personnes handicapées. Donc, cette formation-là vient justement, la ville, c'était quelque chose qui demandait depuis longtemps. Donc, pour les personnes qui travaillent à l'accueil des personnes handicapées, comment accueillir des personnes handicapées, cette formation-là est donnée par des personnes handicapées.
Ah bien, parce qu'effectivement, c'est un des premiers obstacles souvent, les attitudes discriminatoires. Avant de vous quitter, puisque il y aurait beaucoup de choses à dire, je sais bien, pour circuler entre ces installations, tout le monde le sait, ça prend du transport, notamment du transport adapté. Comment ça va le transport adapté dans les villes d'Alma et Saguenay?
Bien, écoutez, nous, ici, à Saguenay, c'est une société de transport, donc il y en a 9 au Québec. Et le reste, c'est des corporations de transport. Donc, dans chacune, je vous dirais, de chacun de nos coins de pays, le transport demeure encore aujourd'hui un obstacle.
Oui.
parce que il y a de plus en plus de personnes qui demandent l'accès au transport adapté. Mm-hmm. Les budgets ne suffisent pas. Nous, on travaille encore. On est allé l'année passée, justement, au Parlement, à la période de questions, de travailler sur ce dossier-là. On poursuit, parce que, bon, il y a eu quelques augmentations, mais ça ne comble pas tout. Dans mes milieux urbains, j'ai des gens qui ne peuvent pas sortir... ils peuvent sortir qu'une seule fois dans le mois, mais c'est des activités de groupe.
Incroyable.
Quand sont de façon individuelle, ils ne peuvent pas sortir.
Puis rappelons que nos sociétés sont quand même vieillissantes, là. Il y a de plus en plus de gens qui sont appelés à avoir besoin du transport adapté.
Oui, puis le transport adapté devient aussi parfois un transport médical.
Voilà, oui, aussi.
Fait que, donc, ça enlève des fois des places pour les gens pour pouvoir sortir, pour avoir accès à un loisir.
Oui, il faudrait qu'il y ait de la place pour tout le monde. Donc, vous travaillez pour ça. Où on retrouve l'information sur vos activités, Manon Blackburn?
On peut les trouver sur notre site web et aussi toujours en communiquant avec nous à notre numéro. Puis, il faut dire qu'aussi des associations régionales de loisirs personnes handicapées, en tout cas la mission loisirs personnes handicapées, elle est travaillée par 16 régions au Québec.
Mm-hmm. Donc, ça fait beaucoup de monde et peut-être plus de place pour tout le monde.
Oui.
Bon, Madame Blackburn, merci beaucoup. Rappelons que vous êtes directrice de l'association régionale de loisirs pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci.
Merci beaucoup. Au revoir.
Citoyens et citoyennes sont invités à voter le 5 novembre prochain. Bon, je le dis fort, dans l'espoir qu'on l'entende, mais si vous avez de la difficulté à utiliser un crayon ou simplement que vous avez une basse vision, qu'est-ce qui est disponible pour ne pas vous handicaper dans votre citoyenneté? Hein, c'est une bonne question, ça. Et pour y répondre, la personne de la situation qui va nous expliquer comment ça se passe à Montréal, il s'agit de Pierre G. Laporte, porte-parole d'Élections Montréal, secrétaire recherchiste au service du greffe. Bonjour, Monsieur G. Laporte.
Bonjour, M. Bassette. Comment allez-vous?
Ça va très bien. Content de vous entendre de nouveau.
Ça me fait plaisir.
Et d'ailleurs, vous êtes la référence, mais je vous pose la question que tout le monde vous pose. Je suis désolé, je ne serai pas original.
Allez-y.
Où et quand aller voter, M. Laporte?
Alors, écoutez, où et quand aller voter? Bien sûr, le vote, la journée du vote, c'est le dimanche 5 novembre qui vient. Les bureaux sont ouverts de 10h à 20h. Mm-hmm. Les électeurs, vous devez avoir reçu chez vous un avis de rappel dans lequel sont indiqués effectivement les endroits l'endroit où vous pouvez voter le 5 novembre, parce qu'évidemment, le vote par anticipation, lui, est déjà passé. Là. Mm-hmm. Donc, le 5 novembre. Et sinon, si vous ne l'avez pas, en allant sur le site web d'Élections Montréal et en tapant votre code postal, on vous indiquera à ce moment-là de cette précision si jamais vous avez perdu le petit feuillet en question, l'adresse où vous pourrez aller voter.
Donc, tout est clair et d'ailleurs, c'est aidant d'aller vers élections-montréal.qc.ca pour tout avoir ces infos.
Exactement, ou si vous préférez, jevotepourmaville.ca, qui est aussi une autre adresse qui va vous amener au même endroit. Mm-hmm. Et à partir de là, effectivement, vous allez trouver les informations.
Que peuvent demander les personnes qui ont besoin d'aide pour voter, M. Laporte?
Oui.
Oui.
Oui, 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 d'accord. Oui, personnes qui
est-ce
ont
que
des,
vous
oui,
m'avez.
des gens avec des limitations fonctionnelles qui ont besoin d'aide, effectivement, oui.
Oui, allez-y. Donc, si les gens ont des problèmes pour voter, en fait, mm-hmm. qu'est-ce qui est à leur disposition?
Okay, il y a un certain nombre de mesures qui sont en place. Vous savez que maintenant, de toute façon, quand les gens arrivent et qu'ils ont, il y a une affiche à l'entrée de tous les endroits de vote qui vont indiquer, qui indique la disponibilité des outils qui sont là. Donc, il y a un gabarit, par exemple, pour les gens pour qui ça pourrait être compliqué de bien positionner leur X, là, leur signe.
Comme quand j'étais petit, on disait comme un stencil un peu là.
Exactement.
Ça
oui,
marque.
Bon, en joli français, c'est un gabarit, mais
un gabarit.
Je pense que tout le monde va comprendre de quoi on parle. Vous avez raison.
Désolé.
Non, mais c'est très bien. De la même façon, il y a de gros crayons. Hein. Il y a des gens qui peuvent avoir de la difficulté au niveau de la dextérité à tenir un crayon. Il y a de gros crayons qui sont disponibles. Vous pouvez le demander et on va vous en fournir un sans problème.
Mm-hmm.
De la même façon, il y a un porte-document rigide pour faire tenir votre bulletin. Peut-être si vous n'êtes pas très à l'aise là, avec la façon dont vous avez des difficultés justement pour le tenir. Ça aussi, c'est disponible. Alors, tout ça, bien sûr, est disponible. C'est là... Quelquefois, les gens finiront, ne vous l'offrent pas spontanément. N'hésitez pas à le demander quand vous avez vos bulletins de vote. Ça existe
oui.
et ça peut. Et à ce moment-là, on va faire en sorte que vous puissiez utiliser ces outils-là.
Et si jamais une personne a besoin d'aide, par exemple, elle a besoin d'un bras parce qu'elle est aveugle ou d'autres besoins, vous avez
oui,
aussi des
cas,
gens.
Dans le cas d'une personne aveugle, par exemple, effectivement, on peut accompagner la personne dans l'isoloir, lui expliquer, lui donner effectivement le crayon si elle veut faire ses traits lui-même avec le gabarit
mm-hmm.
et lui indiquer. Par exemple, le premier candidat est un tel, le deuxième est un tel, le troisième est un tel. Cette année, contrairement à 2013, j'avais énormément de candidats, il y a un peu moins de candidats, donc les bulletins de vote, notamment pour les postes de conseiller de ville ou de maire d'arrondissement, vont être beaucoup moins longs.
Mm-hmm.
Alors, il n'y aura pas une litanie de noms, il y a peut-être deux ou trois ou quatre candidats, alors ce sera peut-être plus facile de le faire, mais effectivement, ces personnes-là peuvent avoir un accompagnement pour les aider dans leur exercice.
Très heureux. Et si, je sais qu'ils ne nous entendent pas, là, mais si une personne a besoin d'un interprète, il y a aussi un service disponible.
Oui, il y a un service disponible également là-dessus. C'est de façon générale, oui. Et dans les faits, oui, on peut procéder de cette façon-là. Je n'ai pas tous les détails, par exemple, par rapport aux interprètes, mais effectivement, c'est quelque chose qui est également à faire.
Bon, très heureux d'entendre ça. Écoutez, il y a eu quelques signalements, puis on ne va pas prendre trop de temps pour ça, mais quelques signalements de difficultés d'accessibilité à Anjou, à Rosemont, entre autres, dans les étapes précédentes. Mais supposons que ça arrive, là.
Oui.
Parce que je sais que vous avez corrigé les tirs à chaque fois qu'on vous a signalé. Supposons que ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, puis notre bureau de vote est censé être accessible, puis là, il y a une porte trop lourde, il n'y a personne pour nous accueillir, enfin bref. Qu'on fait?
Bon, moi, j'aurais envie de vous dire, j'espère que vous n'avez rien à faire et quelqu'un sera là pour vous ouvrir. Là.
Oui, voilà.
Il y a une porte trop lourde et tout ça. Alors, en principe, effectivement, il y a quelques endroits, bon, bien sûr, tous nos endroits doivent être accessibles universellement accessibles.
Mm-hmm.
Et effectivement, on a vraiment mis de côté certains endroits qu'on utilisait dans le passé parce qu'ils ne l'étaient pas.
Oh oui, vous avez fait un énorme travail, il faut le souligner. Là.
Oui, ce côté-là, je pense que oui. Est-ce que, mm-hmm. est-ce que c'est perfectible? Encore une fois, oui. Par exemple, je pense au vote par anticipation de dimanche dernier, on nous signait un endroit où il y avait une rampe et puis la rampe n'était pas, comment dire, assez suffisamment bien ajustée. Ça posait des problèmes. Alors, de ce côté-là, il y a des réparations qui se font. Donc, tout ce qui nous a été souligné, on y voit, bien sûr. Et dans le cas d'endroits où les portes sont lourdes ou du mauvais bord ou quoi que ce soit, normalement, il y aura une personne à l'accueil qui pourra assister les gens qui arrivent à ce moment-là.
Bien. Et encore une fois, si on souhaite avoir une réponse rapide, il y a un numéro, j'imagine, où on se rend directement sur le site pour trouver les références du point de vote.
Il y a plusieurs possibilités, bien sûr. Si vous voulez effectivement trouver votre endroit de vote, ben, vous pouvez l'avoir. Effectivement, le numéro de téléphone, le 514-872-VOTE, 872-8683, qui est toujours accessible. Il y a des téléphonistes qui vont vous répondre. Sur le site web, effectivement, vous arrivez sur la page d'accueil et il y a un onglet qui s'appelle « Où et quand voter ». Celui-là, effectivement, va vous donner, en rentrant votre code postal, l'adresse, le lieu de votre bureau et tout ça. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir l'ensemble de l'information.
Moi, j'ai envie aussi de repointer vers un bel article qui vous met en scène. Je ne sais pas si on peut dire mettre en scène, là, mais bon, c'était Radio-Canada qui le proposait il y a quelques semaines déjà. Si les gens voulaient le retrouver, le titre, c'est « Tout ce que vous devez savoir sur les élections à Montréal ».
C'était sur le site. C'était encore, je pense bien, sur
Exactement.
Le site de Radio-Canada.
C'est toujours sur le site de Radio-Canada, puis si vous allez sur Google, vous tapez tout simplement tout ce que vous devez savoir sur les élections à Montréal. C'est vraiment intéressant ce qu'on y lit.
Ça va vous amener, effectivement. C'était une des toutes premières entrevues qu'on a fait au début de la période électorale. J'avoue que le journaliste qui a fait le travail a un bon résumé.
Bien, content que les journalistes comprennent comment on vote, peu importe notre situation. Merci beaucoup à vous aussi qui êtes là pour nous éclairer sur comment y arriver. Je rappelle que vous êtes Pierre Gélaporte, une institution pratiquement dans votre service, porte-parole, excusez-moi, porte-parole d'Élection Montréal. Vous êtes aussi secrétaire recherchiste au service du greffe de Montréal.
Alors, j'espère ne pas être tout de suite une institution et demeurer un être vivant pour un
bout de temps. Oui, non, bien sûr. Mais merci pour tous vos bons renseignements. Au plaisir, monsieur.
Au plaisir, au revoir.
On vote le 5, d'ailleurs. Faut juste le rappeler comme ça. Le 5
tout
novembre.
Le 5 de 10h à 20h.
Oui, au revoir, merci.
Au revoir.
C'est une bête étrange. On l'appelle souvent administration municipale, puis on refuse souvent son statut de gouvernement. Donc avec nous, pour comprendre la bête, notre chroniqueur juridique et ex-président de la Chambre des notaires du Québec, Jean Lambert. Bonjour Jean Lambert.
Oui, bonjour Benoît.
Et évidemment, avec les élections qui s'en viennent, vous êtes à propos.
Bien, on a pensé que le sujet des municipalités serait intéressant parce que savez-vous, actuellement, on a le directeur général des élections au Québec qui a une campagne de sensibilisation vraiment innovante et intelligente parce que les gens ne viennent pas voter. Aux dernières élections, c'était moins de 40 % pour l'ensemble du Québec.
Oui.
C'est incroyable pour un gouvernement qui est si près des citoyens.
C'est un gouvernement de proximité, comme vous le dites souvent. Et je sais même que vous avez déjà
été conseiller municipal dans une petite municipalité de villégiature au nord de Montréal. Alors, c'est très intéressant parce que c'était dans mes jeunes années, c'est là que j'ai appris c'était quoi assumer une tâche, une responsabilité publique et de voir comment ça se faisait des élections. Alors, j'avais dans la vingtaine à ce moment-là.
Et donc,
on commençait à parler
quoi,
d'environnement. On avait fait l'enterrement de la rivière du Nord, qui avait été le premier show médiatique en matière d'environnement. Bref, période dans les années 70 qui était assez bouillonnante. Donc, petit conseil municipal, 6 personnes, mais on a nos citoyens, nos commettants devant nous à chaque réunion du conseil. Et ils ne se gênent pas pour nous rappeler à la réalité et à nous ramener les deux pieds par terre.
C'est une vraie expérience démocratique. Le bien commun est dans la figure. Pratiquement. Pratiquement. Et donc, vous connaissez ça de près. Qu'est-ce que c'est une municipalité, Jean Lambert?
Alors, si j'utilise mon langage juridique, je vais vous dire que c'est une personne morale de droit public.
Mm-hmm.
Bon, c'est un peu ronflant pour dire que c'est un organisme qui est créé par une loi spéciale dont le but, évidemment, est non lucratif. La mission, c'est de gérer un territoire donné, par exemple les limites d'une municipalité, au plan de l'urbanisme, de la salubrité, protection incendie et autres, sécurité publique, voirie, loisirs et maintenant développement économique et protection de l'environnement.
Très important.
Mm-hmm.
Et même l'habitation s'est ajoutée récemment pour certaines municipalités, même pas pour la plupart.
Hein? Mais
oui. OK. Et c'est par rapport aux autres gouvernements, là, par rapport au gouvernement fédéral, provincial, où ça se situe le gouvernement?
On a dans notre pays 3 ordres de gouvernement. Évidemment, le gouvernement fédéral à Ottawa, c'est celui qui plane, si je peux dire, au-dessus de l'ensemble du Canada et qui se
fait pas référence à la loi sur le pote.
Non, non, non. Non, surtout pas. Qui s'occupe de grandes questions comme, par exemple, la protection du territoire, l'armée, mais aussi l'aviation, les télécommunications, le commerce international. Bref, les grandes questions qui touchent l'ensemble du pays, alors que le deuxième ordre de gouvernement, qui est déjà, lui, est plus près de nous, ce sont les gouvernements provinciaux qui s'occupent, évidemment, de gestion du territoire, mais aussi des deux grandes missions que sont la santé et l'éducation.
Bien sûr.
Et le troisième, c'est là où il y a beaucoup d'argent, ben, hein? Ce sont nos municipalités. Alors, c'est plus terre à terre. On s'occupe, par exemple, d'éclairage de rue, d'enlèvement des déchets, mais aussi de questions importantes comme, par exemple, l'utilisation du territoire. Est-ce qu'on flanque une tour de 15 étages en milieu, par exemple, résidentiel de bungalow? Bien sûr que non. Et aussi les normes de construction. Alors, ça s'est élaboré au cours du temps pour essayer de contrer les incendies qui se propageaient d'une résidence à l'autre. Donc, et aussi la sécurité. Est-ce qu'on veut que, par exemple, le renvoi des égouts soit sécuritaire, que ça ne crée pas de... oui, on a un plaisir moderne qui vient de se faire entendre. Bref, donc, de questions qui sont très, très, très près du quotidien des gens.
Bien sûr. Et donc, c'est la proximité. Vous avez pas nommé les déchets et autres responsabilités, ouais. Mais c'est la moins noble, hein, semble-t-il.
Je suis pas sûr que ça. Je vous dis que lorsqu'il y a une grève, par exemple, des éboueurs, que ouais. Les déchets ne sont pas retirés, je vous dis que la qualité de vie des citoyens, c'est pas long.
Ouais,
ça en prend un coup.
L'environnement aussi.
Et c'est
pas
la
mal.
Même chose pour la neige, c'est ouais. La même chose pour l'éclairage de nuit dans les villes que l'on veut sécuritaire. Bon, et bref, on pourrait faire le tour. Alors, c'est très important.
Bien sûr. Et maintenant, je vous poserai la question qui tue. On sait, il y a des élections. Là. Je suis sûr que vous allez dire que c'est l'électeur qui dirige, mais qui dirige, au fond, les municipalités?
Alors, en vertu de la loi, c'est le conseil municipal. Donc, ce sont les élus, généralement les conseillers et le maire, et dont le nombre varie, par exemple, si on arrive dans les grandes villes, mais généralement dans les municipalités rurales et de régions de villégiature, c'est 6 conseillers et le maire qui sont élus aux 4 ans. Remarquez que c'est pour l'ensemble des municipalités au Québec, de villes, de paroisses ou de villages, les élections, c'est aux 4 ans. Donc, on en a une qui s'en vient dans quelques jours.
Est-ce que c'est important, les élections? Vous l'avez dit d'entrée de jeu, mais...
Ben, c'est
rappelez-le.
Un peu malheureux de voir que les gens ne s'en préoccupent pas. Moins de 40 % même dans certaines villes, c'est moins que ça. Et là, on ne parlera pas des élections scolaires. Là, c'est plus désastreux. C'est même pas 10 % dans certains cas. Et pourtant, ce sont des institutions qui sont près des gens qui touchent au quotidien. Et la qualité de vie, bon, on parle des pistes cyclables, on parle aussi des embouteillages, on parle aussi de la salubrité, la qualité de l'air qu'on respire. Ce sont des questions qui sont éminemment importantes pour la qualité de vie et ce sont les municipalités qui sont maîtres d'œuvre
voilà.
Dans ce domaine. Donc, il faut aller élire nos représentants, il faut aller utiliser ce pouvoir démocratique qu'on a.
Je pense que c'était les meilleurs mots de la fin.
Déjà, ben
déjà, bon. Jean Lambert, ex-président de la Chambre des notaires du Québec, mais aussi ancien conseiller. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Le travail, c'est, selon bien du monde, une des clés de l'inclusion. En fait, il faut peut-être même le prendre à l'inverse. L'aide de dernier recours, même quand on a des contraintes sévères à l'emploi, ça ne nous rend pas vraiment heureux en général. Et les gouvernements de partout au Canada misent souvent sur des mesures, des programmes afin d'améliorer le travail des personnes en situation de handicap ou l'inclusion au travail, on pourrait dire, mais aussi, et ça c'est vraiment déterminant, la perception, les attitudes discriminatoires. Donc, quelque chose comme les deux grands thèmes importants et ça nous amène à discuter avec les gens qui sont bien au fait pour faire un peu le bilan de ce qui est fait ces dernières années afin d'améliorer l'inclusion au travail.
D'abord avec nous, un habitué, Walter Zélayan, qui est directeur de l'organisme Moelle épinière et motricité Québec, mais qui représente aujourd'hui le ROSEF. Bonjour Walter.
Oui, bonjour Benoît.
Bonjour. Donc, vous allez aborder aujourd'hui avec nous notamment le volet 2 de la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées, les ententes avec Emploi Québec et la réforme de l'aide sociale.
D'accord.
Ça vous donne beaucoup de ministères en même temps. Hein? Je sais que vous êtes capable d'abattre tout ce travail. Laurence Perrault-Rousseau, qui est directrice de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire, va nous parler plus particulièrement de ses expériences à elle comme travailleuse culturelle, puis les difficultés aussi qui viennent quand on est en situation de handicap. Bonjour Laurence.
Bonjour Benoît.
Content que vous soyez de nouveau avec nous.
Merci.
Et au téléphone avec nous, en direct de Restigouche au Nouveau-Brunswick, Renaud-Michel Haché, qui est coordonnateur de la recherche, de la conception pédagogique et du développement de la campagne. Attention, retenez-le, là, ça cogne. Optez pour le talent, qui a été lancé par la Corporation pour le bénéfice du développement des collectivités. Donc, bonjour, Monsieur Haché.
Bonjour, Monsieur Rassette.
Content que vous soyez avec nous.
Le plaisir est pour moi.
Et on va en parler un peu plus tard de cette plateforme que vous avez collaboré à déployer. On a même un extrait là, d'un de vos vidéos. On vous revient dans peu de temps. Si vous me permettez, on va d'abord commencer sur les stratégies québécoises, puis on va se questionner ensemble ce qu'on peut faire partout au Canada pour abattre les problèmes de perception et le travail. Alors, Walter Zélayan, je m'adresse à vous en premier, si vous permettez. C'est quoi le bilan que vous faites du premier volet de la stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées qui a été lancée quand même en 2008?
Oui, exactement. Écoutez, c'est sûr que le bilan qu'on fait n'est pas nécessairement rose. Il faut commencer par dire que le gouvernement avait pris des engagements à ce moment-là, des engagements précis, et que malheureusement, ces engagements-là n'ont pas été respectés.
Ah oui, et dans leur majorité?
Moi, je dirais que les engagements les plus importants n'ont pas été respectés.
Okay.
Vous voyez, le gouvernement s'était fixé comme objectif de réduire de moitié le désemploi, le manque d'employabilité des personnes handicapées, de les réduire de 50% en 10 ans. Mm-hmm. La stratégie était lancée en 2008, donc ça veut dire qu'en 2018, on devait avoir moins de 50%. Évidemment, quand il est arrivé le moment de faire le bilan de premières 5 ans, en 2013-2014, on s'est rendu compte que le gouvernement n'avait pas des données. Alors, il n'avait même pas des données pour pouvoir établir finalement à partir
En quelle année vous êtes rendu compte de ça?
En 2013-2014, alors, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas en mesure de faire ces bilans-là. Mais de toute évidence, nous, on savait que le gouvernement n'aurait pas été en mesure d'atteindre ces objectifs-là, entre autres parce que les engagements qu'il avait pris pour ce que les investissements qu'il devait faire, notamment dans le cadre de contrat à intégration de travail, ce qu'on appelle communément les CIT.
Oui, le CIT.
L'argent n'était pas là. Mm-hmm. Le gouvernement...
Oui, il y a eu toutes sortes de tergiversations. On ne savait pas une année sur l'autre s'il y avait disponibilité de fonds. On accueillait quand même les demandes. C'était long avec le suivi. Bref, le CIT, c'est un des gros problèmes que vous avez.
Exactement. Alors, jusqu'en 2013, le gouvernement aurait dû avoir investi 41 millions de dollars. Mm-hmm. Donc, ça, c'était les engagements qui étaient... on aurait eu, c'est-à-dire un budget global pour l'ensemble de la province de 41 millions de dollars. Et au moment qu'on se parle, ça veut dire qu'on est quand même en 2017, ça c'était pour les 5 premières années, on est entre 35 et 36 millions de dollars qui comportent les CIT. Mm. Donc, les engagements pour les 5 premières années n'ont pas été respectés. Alors, si vous voulez, c'est les mesures sur lesquelles on pouvait compter qui étaient donc n'ont pas été là, l'argent n'était pas là. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais moi, je me pose la question, est-ce que ces choses-là auraient été faites de toute façon, même s'ils n'avaient pas eu de stratégie comme telle. Alors, l'impact de la stratégie, on ne la voit pas.
Oui, parce que les CIT existent depuis combien d'années, les cantons d'intégration?
Ça fait plusieurs dizaines d'années. Disons qu'avant d'être gérés par Emploi Québec, ils étaient gérés par l'Office des personnes handicapées du Québec. Okay. Alors, ça, c'est la question de la stratégie. Donc, c'était les intentions sont bonnes, la stratégie est bonne, les objectifs sont bons. Et le constat que fait le gouvernement et le constat que nous on fait, c'est-à-dire que les personnes handicapées restent quand même parmi les populations les plus éloignées, pas les plus éloignées, mais surtout les moins représentées sur les marchés du travail. L'intégration au marché du travail est la plus lente. Donc, c'est encore la difficulté est plus grande même que les personnes immigrantes. Si vous voulez, que la situation des femmes et que même avec les Autochtones, on n'est pas...
Puis, il faut quand même avouer les indicateurs de l'employabilité des personnes autochtones ou des Premières Nations est très faible.
Est très faible.
Mais quand c'est même inquiétant.
Tout à fait.
C'est ça qu'on a tendance à ressortir. Là.
Tout à fait. Il est très inquiétant. C'est-à-dire qu'il y en a moins de personnes autochtones sur le marché du travail. Mais quant à la progression à l'intégration, même ça, ça a augmenté un petit peu plus. Vous voyez, les taux de la population en général, il y a un taux d'emploi des personnes qui normalement devraient être au marché du travail. On va parler de 79,9%, donc disons 80%.
Oui.
Et alors que celle des personnes ayant des limitations, on va parler de 39,7%. Alors, donc, l'écart est quand même important.
Les gens sont condamnés à l'aide sociale, pratiquement. C'est presque ce qu'on peut lire. Là. Ça fait presque 60% des gens qui n'ont pas de revenus d'emploi.
Exactement. Alors, c'est quand même important le nombre de personnes. Et ce qu'il faudrait dire, c'est qu'il y a un très grand pourcentage qui pourrait très bien intégrer le marché du travail à condition qu'on offre les moyens à ces personnes-là. Alors, quant au constat, je pense que le gouvernement fait le même constat que les ressources en employabilité, donc le RECEF fait. Alors, on fait les mêmes constats. Maintenant, on espère, le gouvernement s'est engagé à revenir sur le 12e volet, donc pour 5 ans, avec le 12e volet de la stratégie. On attend. On nous dit que ça devrait, la stratégie devrait apparaître ou devrait être publiée à quelque part au printemps 2018.
Donc, on l'attend évidemment. On espère plus d'argent, même peut-être pour compenser l'argent qui n'a pas été donné dans le premier volet. Mais donc, est-ce que vous trouvez que c'est bien engagé pour le volet 2 de la stratégie nationale pour l'intégration? Est-ce que vous croyez que ça ira mieux? Surtout qu'on est en période électorale.
Nous, on le souhaite que par hasard, ça va être présenté au printemps. Par hasard, c'est quelques mois avant les élections.
Ouais, voilà.
Alors, on souhaite qu'il y ait. Quant à nos demandes, nos revendications, c'est que le gouvernement investisse 5 millions de dollars par année pour les CIT au cours des 5 prochaines années. Nous, on demande aussi une augmentation, d'augmenter le bassin des personnes handicapées actives sur le marché du travail, donc de mettre l'accent sur cet élément-là. Et à ce niveau-là, de rehausser les cibles d'admission dans les organismes qui reçoivent des personnes handicapées. Il faudrait dire qu'on est très limité.
Donc, il y a plus de gens qui soient aidés ou soutenus par les mesures d'employabilité, notamment communautaire. Walter Zelaya, vous êtes directeur de l'organisme Emo Québec, mais aujourd'hui, vous représentez le RECEF. On va ajouter les liens pertinents là, au bas de notre page pour que les gens comprennent bien là, où on va. Avant de voir comment on peut lancer et promouvoir les personnes en situation de handicap autrement sur le marché du travail avec Renaud-Michel Haché, je me retournerai vers Laurence Perrault-Rousseau, qui est directrice de la CEPS et qui a été longtemps une travailleuse culturelle. On dit que pour que les personnes en situation de handicap puissent vivre l'inclusion au travail, il faut faire preuve de créativité. Mais ce n'est pas tous les milieux où c'est possible.
Où c'est possible. Et je tiens à dire en partant que je ne veux pas faire une charge à front de train contre le milieu culturel que j'aime beaucoup.
Ouais.
Mais c'est un des milieux le plus complexe au niveau de l'inclusion, à mon avis.
Ouais.
Parce parce que, les lieux de travail ne sont pas nécessairement toujours fixes. Alors là, essayez de convaincre un chauffeur de transport adapté que vous allez travailler en pleine tempête, en plein hiver, dans un lieu qui n'est pas régulier, c'est complexe.
Oui, c'est très complexe. Même quand c'est un café, par exemple, puis là, en période de tempête, on pourrait vous empêcher d'y aller parce qu'on vous croit pas quand vous dites que c'est pour rencontrer un client pour acheter vos rideaux.
Exact.
Par exemple.
Exact. En tant que travailleur autonome, tu travailles pas toujours dans ton bureau.
Oui.
Tu disais que en entrée de jeu que j'ai travaillé longtemps dans le milieu culturel, mais j'ai essayé.
Oui, ben c'est ça. Vous avez étudié dans le milieu culturel.
J'ai étudié, j'ai essayé de travailler là, mais ça. Jamais bien à donner, dans le sens où à chaque fois que je passais une entrevue, oui, ça fonctionnait très, très bien. Mais, par exemple, les 35 heures semaine étaient non négociables. Moi, c'est sûr que mon énergie ne me permet pas de faire ça. Je pense pas être la seule en situation de handicap qui vit ce problème. Donc, c'est un milieu qui est très demandant et qui... on doit donner beaucoup... Et c'est normal, c'est tout à fait normal parce que...
Oui, en fait, on ne comprend pas quand les gens ne vont pas au-delà de leurs limites.
Exact.
C'est presque ça qui est commandé dans le monde du théâtre, de la télévision, par exemple, dans la production. Hein,
exact.
C'est ça.
Mais je pense que une personne en situation de handicap qui a une certaine limitation peut quand même faire un très, très grand travail sans nécessairement faire le 35 heures semaine.
Et donc, il faut... être créatif, ouvert,
exact.
Inclusif. J'aimerais vous faire entendre quelque chose, auditeurs, auditrices, et on va voir comment on peut, pas juste ensoleiller ça, mais donner le goût aux employeurs d'être plus inclusifs.
Nous croyons sincèrement que le plus grand obstacle, en fait, c'est vraiment la perception du handicap. Et on trouve ça important de modifier cette perception-là pour que le focus soit fait sur la situation handicapante et non pas sur la personne et son handicap.
On ne peut pas dire mieux. C'est une vidéo qu'on retrouve sur la plateforme dont je vais vous parler avec un de ses créateurs. Donc, Renaud-Michel Haché est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, cette plateforme que vous avez lancée, dites-nous de quoi il s'agit exactement?
En fait, c'est un grand projet national. C'est un site web avec des éléments interactifs qui a pour but là, d'informer les employeurs à propos des stratégies pour augmenter leur efficacité dans l'embauche des personnes en situation de handicap.
Ah bien, bon.
Alors, en deux mots, Opter pour le talent, c'est une trousse de 10 outils thématiques là, qui se déclinent en plusieurs fiches d'informations qui sont faciles à consulter et qui portent sur l'ensemble du processus d'embauche. Donc, on vise vraiment l'employeur pour l'aider là, dans ses stratégies de recrutement, aller du recrutement, aller jusqu'à la rétention des employés en situation de handicap. Mais j'aimerais aussi parler d'entrée de jeu que le projet Opter pour le talent, l'information qui s'y trouve, s'applique à tous les employeurs et pour tous les employés aussi.
Donc, c'est tout le monde, oui. Effectivement, c'est pas seulement aux employeurs à qui ça s'adresse.
C'est un projet inclusif, oui, c'est ça, oui.
C'est inclusif, c'est des deux côtés. Pour qu'inclusion, il faut que tout le monde travaille ensemble, plus ou moins.
Oui, c'est ça, c'est ça.
Et dans vos fiches, on parle entre autres de cette perception qui explique que parfois c'est les peurs, les angoisses, la méconnaissance des employeurs qui peut faire que les employés ne sont pas appelés comme futurs employés. Qu'est-ce qu'on retrouve sur votre site Opter pour le talent qui pourrait convaincre ou qui pourrait changer peut-être le regard des employeurs?
En fait, on a abordé le contenu. On a travaillé bien sûr avec des experts, puis j'aurai peut-être l'occasion d'en jaser un petit peu tantôt, mais on a consulté des employeurs dans des groupes de discussion. Puis avec plusieurs des employeurs, ils nous ont indiqué là que, et puis la recherche aussi, là, la demande, la revue de littérature le démontre aussi, c'est que les employeurs sont très peu confiants dans leur embauche de personnes en situation de handicap. Ils manquent d'informations, ils manquent de savoir-faire, ils sont insécures dans ce processus-là. Alors nous, avec la trousse Opter pour le talent, on cherche à combler ce besoin d'informations et de savoir-faire auprès des employeurs.
Et peut-être vous pourriez nous décliner quelques-unes de vos 10 fiches. Qu'est-ce qu'on y retrouve exactement?
En fait, chacun des outils a plusieurs fiches d'information. On a voulu avoir un message très simple, quelque chose qui est très clair pour l'employeur. il y a trois grands groupes, si on peut dire. Le premier groupe, c'est des informations, par exemple, quels sont les avantages corporatifs, comment on peut améliorer ou qu'est-ce qui améliorerait l'image de l'entreprise, comprendre c'est quoi un handicap, toujours aussi la perspective, on s'adresse toujours à l'employeur, et aussi, en fait, les employeurs nous ont partagé c'est quoi les enjeux juridiques là, qui peuvent entrer en ligne de compte?
Oui, parce qu'il y a quelques obligations quand même. Là. Il y a évidemment des obligations différentes. Et certaines viennent du fédéral, tout dépendant des secteurs, d'autres de sa province.
Je serais assez curieusement, par contre, ces obligations-là s'adressent à tous les employeurs dans tous les contextes d'embauche.
Ah oui, c'est ça.
Alors, c'est pour ça que ça s'adresse à tous les employeurs et on veut démystifier le fait, là, on veut donner la vraie information. On a travaillé avec des avocats qui nous assurent là, que l'information qu'on partage, là, elle tient pour le Canada. Là.
Bon. Est-ce que c'est la meilleure manière de convaincre les employeurs quand on leur dit « vous n'avez pas le choix
» Ben, en fait, on cherche à les informer et on cherche à démontrer les avantages et on cherche à démontrer les habiletés, les compétences et les compétences et les habiletés que les personnes en situation de handicap peuvent apporter. Qu'est-ce que ça propose, qu'est-ce que ça l'emmène de créer un milieu de travail inclusif aussi?
C'est ça, c'est la plus-value de l'inclusion que vous défendez beaucoup dans « Opter pour le talent ».
Effectivement. Les statistiques le démontrent très clairement là, par rapport à la motivation des employés. L'ensemble de l'équipe est plus motivé et tous les autres avantages là, qui sont déclinés. Là.
Donc, vous avez entendu Walter Zelaya qui représente le ROSEF sur la stratégie du Québec. Est-ce que vous avez remarqué des disparités entre les provinces sur la question de l'intégration des personnes en situation de handicap au marché du travail?
Effectivement, le Canada, c'est un très vaste pays, puis il y a plusieurs différences entre les provinces quant aux approches puis aux priorités là sur la question de l'intégration au travail des personnes en situation de handicap. Mais c'est justement ce que Opter pour le talent cherchait à combler, c'est-à-dire peut-être on a voulu présenter un contenu rassembleur, un genre de, je dirais pas une mise à niveau, là, mais un ensemble pour le pays où tous peuvent y trouver quelque chose puis puiser pour trouver des informations qui répondent davantage à leur région.
Donc, en fait, cette plateforme-là vise quelque chose que tous les gens vivent au Canada, c'est-à-dire, justement, la perception, changer la perception, peut-être être mieux informé sur ce que peut donner, apporter à une organisation que d'être inclusif.
Oui, en fait, vous avez mentionné un peu les vidéos. C'est une bonne partie du site web. On a 5 vidéos en français, 5 vidéos en anglais qui sont produite spécifiquement pour le projet Opter pour le talent, et on y retrouve plusieurs témoignages d'employeurs et d'employés en situation de handicap. Mais principalement les employeurs qui parlent aux employeurs et qui mentionnent les avantages et les bénéfices qu'une embauche inclusive peut apporter à l'entreprise.
Bon. Et Walter Zelaya du ROSEF semble vouloir rebondir. Oui. Je lui donne quelques secondes,
oui,
si vous permettez.
Oui, c'est ça. Juste vous dire que ce que vous dites, la perception est extrêmement important. Il y a une étude qui est apparue ce printemps qui est amenée par un professeur de l'Université Laval, Charles Belmar, dans lequel ils ont envoyé des CV à des entreprises et dans les CV dans lesquels on indiquait ceux qui avaient un handicap physique, donc qui étaient en fauteuil, et ceux qui n'en avaient pas. Les convocations en entrevue étaient 31% pour ceux qui n'avaient pas de qui ne soulignaient pas le handicap et de 13% pour ceux qui indiquaient le handicap. Ça vient donc, et là, les entreprises qui ont été ciblées, ce sont des entreprises qui avaient toute l'accessibilité, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas dire que c'est par manque d'accessibilité qu'on ne les appelait pas en entrevue. Ça démontre donc que le problème de la perception est important.
Donc, je vais devoir fermer l'orchestre. Vous avez été de belles voix pour souligner qu'il faut continuer à œuvrer pour, en fait, promouvoir le talent des personnes en situation de handicap. Walter Zelaya, directeur de l'organisme Mémo Québec, représentant du ROSEF, merci beaucoup.
Merci bien.
Laurence Perrault-Rousseau, directrice de l'AQEPS, merci.
Merci.
Et Renaud-Michel Haché, qui est coordonnateur de la recherche, de la conception et du développement pour la CBDC, Aristigouche, Campbellton, au Nouveau-Brunswick. Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Et on retrouve, je vous rappelle, en bas de cette page, toute l'information pertinente sur non seulement les organismes des gens qui viennent ici à bord, mais aussi pour retrouver, opter pour le talent.
tu es l'excès et la faille, un éclat sarcelle dans la grisaille. Tu as la beauté de l'ombre quand l'aurore s'effondre sous trop de néon. Et je sais que les mots te peinent, te blessent et te font l'effet mille pierres. Mais moi je t'aime, peu importe qui tu aimes, peu importe qui tu es, peu importe qui tu aimes. Je loge à ton enseigne, peu importe qui tu aimes, peu importe qui tu es, tant que tu aimes. Mais moi je t'aime, peu importe qui tu aimes, peu importe qui tu es, peu importe qui tu aimes. Magnolia en fleurs au cœur du désert. La peur se change en lumière quand tu fous en l'air la fausse pudeur. Oui, je sais que les mondes
Notre chroniqueur habitation, c'est Franck Bouchard, chargé de projet groupe CDH. Il navigue dans le monde du handicap depuis combien de temps, Franck?
Oh, une bonne quinzaine d'années.
Bon, voilà. Alors, c'est Franck Bouchard qui nous parle d'habitation et ses bonnes 15 années d'expérience avec les personnes en situation de handicap. Alors, d'abord, je vous demanderai de faire un tour d'horizon des principaux engagements des principaux partis à Montréal en matière d'habitation.
En matière d'habitation, disons que les engagements des deux principaux partis, Projet Montréal, Équipe Coder, Équipe Denis Coderre, tournent autour de quatre axes principaux. On parle donc de favoriser l'accès à la propriété, toujours, mm-hmm. de retenir les familles, donc éviter tout l'exode en banlieue, évidemment. On veut retenir les familles à Montréal. D'offrir davantage de logements abordables et sociaux pour les personnes, disons, qui sont peut-être moins fortunées. Continuer toujours la lutte à l'insalubrité des logements. Donc, c'est autour de ces quatre axe-là que tournent l'ensemble, essentiellement, les propositions des deux parties.
Et les propositions plus spécifiques pour les personnes en situation de handicap, ça ressemble à quoi,
Franck Bouchard? Ça ressemble à quoi? Disons que du côté de l'équipe, pardon, Denis Coderre, on continue de mettre l'accent, évidemment, sur toute la question de l'accessibilité universelle, particulièrement dans les logements, dans les programmes de développement de logements communautaires et sociaux. On veut favoriser, dans les constructions neuves en particulier, que les logements soient beaucoup plus accessibles universellement. Mm-hmm. Du côté de Projet Montréal, on met de l'avant quand même certaines propositions peut-être plus spécifiques.
Oui, parce qu'il n'y a pas de proposition spécifique en logement, chez Équipe Coderre.
Par rapport aux personnes en situation de handicap, oui. Il n'y a effectivement pas nécessairement de choses spécifiques. Du côté de Projet Montréal, on a mis de l'avant certaines propositions intéressantes qui recoupent d'ailleurs des demandes qui étaient dans le milieu personnes en situation de handicap depuis longtemps. On veut, par exemple, dresser un portrait des besoins en matière de logement adapté pour les personnes à mobilité réduite. On veut se connaître davantage, c'est quoi leurs besoins. On veut aussi, ça c'est intéressant, instaurer un guichet unique de l'accessibilité universelle. Donc, les personnes en situation de handicap qui recherchent des logements adaptés, souvent c'est un casse-tête d'en trouver. Donc, avec un guichet unique, ça permettra aux personnes de repérer plus facilement les logements qui sont disponibles. Également, on veut encourager la réalisation de nouvelles unités de logements communautaires réservées, c'est-à-dire que dans le projet Montréal veut réserver un certain nombre d'unités de logements communautaires et sociaux pour des besoins particuliers, mm-hmm. dans laquelle on va retrouver aussi les besoins pour les gens qui en termes de mobilité durable.
C'est ça.
Mobilité,
parce que ça peut être aussi des gens qui ont des défis sociaux, qui ont besoin d'accompagnement socio-communautaire, etc. Mais il y a quand même une part, on le sait, pour les personnes en situation de handicap.
Exactement, oui, effectivement. Là-dessus, le projet Montréal, au moins, a mis de l'avant des choses intéressantes de ce point de vue-là.
OK. Est-ce que vous sentez, dans le bilan, en tout cas, on n'a pas beaucoup de temps pour aller là, mais dans le bilan d'Équipe Coderre, qu'il y a eu des choses pour l'habitation et les personnes en situation de handicap?
Il y a eu des choses intéressantes qui ont été développées. En tout cas, on a visé... Peut-être... En termes de bilan, peut-être que ce sera pour l'avenir intéressant dans le sens où on est allé chercher du côté de l'équipe Coderre avec le rapatriement du statut de la métropole, tout le rapatriement justement des programmes reliés avec, qui étaient de la SHQ, la Société d'habitation du Québec. Ça va permettre de développer plus facilement des logements abordables et sociaux, notamment pour favoriser justement pour les personnes en situation de handicap. Donc, c'est peut-être c'est quelque chose d'intéressant parce que les contrôles seront davantage du point de vue de la ville et non pas seulement du côté de la SHQ. Donc, en termes d'investissement, de facilité de monter des projets, ça, c'est intéressant, en tout cas, du côté de l'équipe de Nicolas, d'être allé chercher ça.
Ceci dit, ces nouveaux pouvoirs peuvent être utilisés par n'importe quelle équipe qui se présentera.
Oui, effectivement. Là, c'est le statut, c'est accompagné. Ça venait avec le statut de la métropole.
Mais c'est lui qui a négocié ces pouvoirs-là.
C'est effectivement l'équipe de Nicolas qui a réussi à... le maire Coderre qui a réussi à négocier le transfert, entre autres choses, de ces pouvoirs-là.
Je sais que, bon, les médias veulent souvent voir que les deux principaux partis qui mènent une lutte, c'est très serré, mais les deux autres partis, Coalition Montréal et Vrai Changement Montréal, ils n'ont pas de proposition pour les personnes en situation d'handicap. Hein?
J'ai rien trouvé de spécifique. Je vais bien être avec vous. Je me suis concentré surtout au niveau du côté des deux partis principaux. J'ai pas, j'avoue, parfaitement transparent, j'ai pas regardé ce qu'ils proposaient de leur côté. Okay. Toutefois.
Parce que vrai changement, moi, j'ai rien vu personnellement. Puis Coalition Montréal, on n'a plus la plateforme. C'est des engagements davantage locaux. Mais donc, est-ce que vous trouvez par rapport aux dernières élections qu'on parle plus de logements? Est-ce que vous sentez ça?
Je sens qu'il y a eu des choses intéressantes, effectivement. Surtout du côté des logements sociaux communautaires, on voit que du projet Montréal vise développer 5 000 nouveaux logements dans les 4 prochaines années, d'ici 2021. Projet Montréal, eux, ont mis de l'avant 20 % de logements sociaux, 20 % de logements adaptables dans les prochains, dans tous nos nouveaux développements immobiliers. Donc ça, c'est intéressant. C'est un enjeu qui est important du côté de la ville de Montréal. Il ne faut
pas passer à côté. Franck Bouchard, vous allez revenir pour l'habitation. Juste rappeler, le 5 novembre prochain, il faut que vous votiez. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, quand on va se reparler, vous aurez voté. Et donc, on verra si vous êtes davantage libre ou si vous voulez encore emprunter cette émission. Quelque chose comme un accès libre. Merci beaucoup à tout le monde.